Bonjour, aujourd'hui une des plus grandes batailles de la Deuxième Guerre mondiale, la bataille de Stalingrad.
C'est à Stalingrad que les gonds du destin ont tourné. Winston Churchill.
Deux mille ans d'histoire. Ce fut la plus grande bataille de la Deuxième Guerre mondiale. 7 mois de combat pour une ville où sont morts 1 million d'hommes. Un symbole pour Staline, dont la ville portait le nom, et pour Hitler, qui, pour ne pas y subir la première grande défaite de la Wehrmacht, y perdit une armée de 300 000 hommes. Tout avait pourtant bien commencé pour les Allemands. Victorieux sur tous les fronts depuis 1939, en Pologne, en France, en Yougoslavie et en Grèce, ils étaient entrés sans difficulté en Russie en juin 1941. Mais ils y découvrirent très vite une résistance inattendue à Leningrad, devant Moscou, et surtout à Stalingrad, où les soldats de la 6e armée du général von Paulus mirent 4 mois pour entrer dans ce qui allait devenir pour eux un enfer. C'était en novembre 1942.
Devant Stalingrad, les batteries allemandes ouvrent le feu dans le but d'enrayer une violente attaque soviétique. Dans ce quartier de Stalingrad, la bataille s'est tue. Et voici des vues de la ville morte sur laquelle un ouragan de fer et de feu s'est abattu durant plusieurs mois.
Laurent Henninger, bonjour. Vous êtes chargé de mission au Centre d'études d'histoire de la défense. Alors avec vous, nous allons parler d'une des plus grandes batailles de l'histoire, la bataille de Stalingrad, qui a inspiré un film impressionnant de Jean-Jacques Hano, où l'on voit avec quel acharnement, en 1942 et 1943, les Russes et les Allemands se sont battus pour cette ville qui représentait, je crois, un enjeu considérable pour les deux pays.
La ville, au départ, avait une importance très net, mais malgré tout secondaire, paradoxalement. C'est-à-dire que le but principal de cette offensive allemande à l'été 1942 est le Caucase, c'est-à-dire beaucoup plus au sud que Stalingrad, dans le but de s'emparer des puits de pétrole du Caucase. Et les Allemands cherchent à s'emparer de Stalingrad, d'abord et avant tout pour protéger leur flanc gauche de cette pointe avancée de leur armée qui s'enfonce vers le Caucase, et puis aussi, accessoirement, je dirais, pour couper les lignes de communication entre le nord et le sud de la Russie, non seulement ligne de communication par le fleuve, la Volga, mais également
sur laquelle est Stalingrad, oui.
Sur laquelle, le long de laquelle Stalingrad est implanté, mais également parce que Stalingrad est un très important nœud ferroviaire.
Donc effectivement, il faut rappeler que les Allemands au même moment étaient devant Moscou depuis déjà plusieurs mois et que ça aurait permis la prise de Stalingrad de tourner Moscou ou en tout cas de couper Moscou de sa ligne de ravitaillement qui passait par la Volga. En tout cas, c'est une importance que souligne Hitler lui-même dans un discours à Munich le 8 novembre 1942.
Si donc M. Staline avait prévu que nous attaquerions au centre, moi je ne voulais pas attaquer à cet endroit. Je voulais arriver à rejoindre la Volga, un endroit précis, près d'une ville précise. Par hasard, celle-ci portait le nom de Staline lui-même, mais ne croyez surtout pas que c'est pour cela que j'ai attaqué.
Laurent Henninger, c'était donc Hitler, en novembre 1942, il fanfaronne un peu, parce que pour l'instant, les choses ne tournent pas encore trop mal à Stalingrad. Hein. L'armée allemande prend la ville, entre dans la ville. On a beaucoup dit, là, on vient d'entendre Hitler dire, si vous croyez que c'est parce que ça porte le nom de Staline que j'attaque, on a beaucoup dit ça, on a dit que l'acharnement des Russes à garder la ville ou à la défendre, et l'acharnement des Allemands à la prendre, était dû au fait qu'elle portait justement le nom de Staline.
Non, ça je pense que c'est un élément qui a joué, certes, mais qui a joué de façon mineure, et surtout dans un deuxième temps de la bataille. C'est-à-dire à partir du moment où la bataille s'est déjà engagée depuis plusieurs mois, où elle s'est donc chargée de symboles très lourds qui ont été investis par les deux camps. Et à partir de là, les symboles tels que les noms, etc., commencent à prendre de l'importance. Mais au départ, effectivement, je pense qu'on peut prendre cette déclaration d'Hitler à la lettre. Alors l'armée allemande, donc, qui commence à attaquer en direction de Stalingrad en août, ne prend la ville ou n'entre dans la ville qu'en novembre, le 19 novembre, quelques jours après ce discours de Hitler, sans savoir que pour les Allemands, ce serait vite une prison. Paulus, le général commandant la 6e armée, va se retrouver enfermé dans sa conquête. Et c'est ça, c'est là que la bataille va devenir extrêmement dure et elle va durer encore 2 mois.
Mais la bataille est déjà dure avant même que les Allemands soient encerclés. Encerclement qui va se produire fin novembre, début décembre. Mais déjà avant, même pour rentrer dans la ville, la bataille va être abominablement dure et sanglante pour les deux camps. Mais je dirais d'abord et avant tout pour les Allemands, il faut savoir une chose, sans vouloir rentrer dans des considérations de tactique militaire trop professionnelles, trop techniques, c'est que la guerre en milieu urbain est une des formes de guerre les plus difficiles, les plus meurtrières qui soient. De toute l'histoire, hein. On le verra.
On y reviendra, effectivement. Mais ce qu'il y a, c'est que Paulus rentre. Quand son armée rentre, il ne sait pas que 7 jours après, eh bien, il va être pris en tenaille par 2 armées russes qui encerclent Stalingrad par le nord et par le sud. Et Staline a mobilisé presque toute l'armée russe, toutes les forces qu'il avait un peu partout. Il a, si je puis dire, raclé les fonds de tiroir. Il a même été chercher des soldats sur le front asiatique en Extrême-Orient parce qu'il savait que le Japon n'attaquerait pas.
Absolument, mais ça, il le savait déjà depuis environ 1 an, puisque c'était déjà des renforts venus d'Extrême-Orient qui avaient sauvé Moscou en décembre 41. Mais là, effectivement, il va jeter dans cette bataille quasiment toutes les réserves de l'armée rouge dans le but de tendre un piège gigantesque à l'armée allemande et d'emporter, comme on dit en termes clausewitziens, une véritable bataille décisive.
L'armée rouge, mais aussi l'aviation. On écoute le serment prêté par les pilotes russes au numéro 1 soviétique pendant l'automne de 1942.
Patrie, camarade Staline, nous jurons de monter une garde vigilante autour du cœur de la patrie. Nous jurons de ne pas ménager nos forces, notre sang et notre vie. Mort à l'occupant allemand. France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui la bataille de Stalingrad.
C'était évidemment un chant de l'armée russe de l'époque. On chantait beaucoup à l'époque, on galvanisait aussi les énergies. Il y a eu un fanatisme des deux côtés, surtout peut-être plus du côté russe, parce qu'au fond, on défend la patrie.
Ils défendent leur patrie, et puis ils défendent tout simplement leur peau. Les soviétiques, qu'ils soient russes, ukrainiens, tchétchènes, tatars ou biélorusses, ils défendent d'abord et avant tout leur peau, leur liberté, parce qu'on dira ce qu'on veut effectivement sur les abominations du régime stalinien, mais en l'occurrence, les nazis sont rentrés en URSS avec une volonté de génocider ou de mettre en esclavage total
les Untermensch,
la population soviétique, c'est-à-dire tous les sous-hommes, pour reprendre la phraséologie nazie.
On a même mobilisé des gens qu'on a sortis du goulag et dont on a fait des officiers. Solzhenitsyn, vous me disiez tout à l'heure que le maréchal Rokossovski, qui est un de ceux qui a encerclé Stalingrad, était lui-même emprisonné au goulag au début de la guerre.
Oui, au début de la guerre, il est en camp de concentration en Sibérie depuis 1938, depuis les grandes purges de l'armée rouge décidées par Staline. Et effectivement, il fait partie d'un grand nombre de stratèges ou même de simples soldats qu'on va ressortir des goulags en catastrophe. On leur donne un uniforme et en avant vers le front.
Alors Laurent Ingers, ce qui est frappant dans cette bataille, et ça ressort très bien dans le film de Hanau, c'est la violence des combats, parce que c'est des combats au corps à corps dans une ville. À l'extérieur, bien sûr, il y a l'armée rouge qui encercle Fort Paulus, mais à l'intérieur, l'armée allemande, la 6e armée, se bat contre des hommes, et c'est des combats au corps à corps dans le film de Hanau. C'est presque un combat singulier entre 2 tireurs d'élite qui ont d'ailleurs vraiment existé. Ça a été terrible, cette bataille pour les rues, pour chacune des rues ou des usines ou des maisons de Stalingrad.
Ce que j'avais commencé à dire tout à l'heure, c'est qu'effectivement, de toute façon, tout combat en ville est forcément atroce et très dur. On le verra à Berlin 2 ans et demi plus tard. On l'a vu ces dernières années à Beyrouth ou à Sarajevo. On l'a vu quelques années avant Stalingrad à Madrid. Mais effectivement, de toutes les batailles de rue, de toutes les batailles en zone urbaine, c'est sans doute celle de Stalingrad qui a été, où le paroxysme de l'horreur a été poussé le plus haut.
C'est ce qui ressort en tout cas des témoignages recueillis par Stéphanie Duncan dans sa revue de textes des témoignages allemands et russes.
Oui, la bataille de Stalingrad est un enfer. Hein. Tous les témoignages, souvenirs, lettres de soldats russes et allemands le montrent bien. Le bruit d'abord. L'air est rempli du hurlement infernal des Stukas, écrit un officier allemand, du tonnerre de l'artillerie, du rugissement des moteurs, des chars, des lance-fusées. Mais le pire, dit-il, ce sont les cris des blessés. Ce n'est pas un son humain, c'est comme le cri de souffrance d'un animal sauvage. Et voilà à quoi ressemble la ville dans les incendies. « Ceux qui ont vu le ciel de Stalingrad à ce moment, écrit un officier soviétique, ne l'oublieront jamais. Il est sévère et menaçant d'un noir que viennent lécher des flammes pourpres. » Et alors que les combats s'intensifient et qu'on s'enfonce dans l'hiver, il fait très très froid, le doute aussi commence à pénétrer les esprits. « Des milliers de gens meurent chaque jour, écrit un soldat russe. C'est devenu si dur que je ne vois pas d'issue. Nous pouvons d'ores et déjà considérer que Stalingrad a capitulé. » Un autre soldat russe. « Tante, Liuba, peux-tu m'envoyer un peu de nourriture ? J'ai honte de te demander ça, mais c'est la faim qui m'y pousse. » Et côté allemand aussi, la faim, les poux, sont de plus en plus cruels. « Lentement, nos braves combattants entrent dans un état de décrépitude, s'inquiète un médecin. On se trouve dans un état d'apathie totale. La seule chose à laquelle on peut penser est la nourriture. » Et bien sûr, on pense à la mort si présente. « Qu'avons-nous à foutre d'une mort héroïque ?» écrit un soldat allemand à sa famille. « Quelle est ici la vérité ? On crève de faim, on crève de froid. Les hommes tombent comme des mouches. Personne ne songe à les enterrer. Il y en a partout, sans bras, sans jambes, sans yeux, le bide plein de trous. » Un autre soldat allemand. « Le Führer nous avait promis de nous sortir de là et nous l'avons cru. Aujourd'hui, personne ne pourra plus me persuader que les camarades tombent en criant « Heil Hitler !» Leur dernière parole est pour un être qu'ils aiment ou pour appeler à l'aide. » Un officier allemand décrit aussi l'agonie de ces hommes. « C'est le pire spectacle de misère que j'ai connu de toute ma vie. Tous ces hommes blessés ou mourants, dont la plupart n'ont plus rien à manger depuis des jours. On ne nourrit plus les blessés, les vivres sont réservés aux hommes en état de combattre. » Dans le ciel, au-dessus de Stalingrad, passe parfois un avion de la Luftwaffe. « Le cœur lourd, écrit un soldat allemand, nous suivions ces avions et pensions combien il serait merveilleux de pouvoir nous envoler hors de cet enfer où l'on nous avait abandonnés. »
Allemands et russes logés à la même enseigne, hein, Laurent Honninger. C'était terrible, hein, ces témoignages sont assez durs. Des femmes aussi, il faut savoir que du côté russe, les femmes se battaient, les enfants se battaient et se cachaient et vivaient dans des caves, on le voit aussi bien dans le film de Hanno.
Du côté soviétique, effectivement, les femmes et les enfants combattent, déjà parce que ce sont des populations civiles, des habitants de la ville de Stalingrad qui ont été piégés dans la ville et que le commandement soviétique a refusé d'évacuer. Donc ils sont contraints à se battre, ils sont partie prenante d'une véritable guerre totale. Et puis d'autre part, dans l'armée soviétique en général, et pas uniquement à Stalingrad, mais tout au long de la guerre, le haut commandement soviétique fait un usage intensif des femmes dans tout un tas de rôles, tankistes, pilotes de bombardiers et très souvent tireurs d'élite.
Alors, difficulté, épreuve terrible aussi du côté de l'armée allemande, des soldats allemands désespérés, ils sont encerclés, une armée, celle de Paulus, est encerclée par sept armées russes. Le seul contact qui reste aux Allemands bientôt, c'est uniquement la radio. On écoute cette archive extraordinaire, c'est un des premiers multiplexes de l'histoire, les combattants de Stalingrad chantant un chant de Noël avec les soldats de tous les fronts où se battent les Allemands. C'était à la radio allemande dans la nuit du 24 au 25 décembre 1942.
Achtung, ich rufe noch einmal Stalingrad.
Hier ist Stalingrad. Hier ist die Front von der Volga.
Attention, j'appelle encore une fois Stalingrad. Ici Stalingrad, ici le front sur la Volga. Voici le souhait de Noël de nos camarades sur la mer Noire. Et voici que se joignent ceux de l'océan glacial en Finlande. Et voici Rief. Et nous branchons maintenant Leningrad, Stalingrad. Et maintenant, tous chantent ensemble dans cette minute.
Kommt dazu, Catania, und singt Afrika. Und nun
Oui, c'est assez extraordinaire, c'est cette archive. En tout cas, ça montre bien, Laurent Henninger, l'étendue à ce moment-là de l'occupation allemande. Jamais l'armée allemande n'a été aussi loin, hein, de la Laponie à l'Afrique, de l'Atlantique jusqu'à Stalingrad. C'est immense, les conquêtes allemandes, à ce moment-là, et ils n'iront pas plus loin, en fait.
C'est le point maximal d'extension de l'impérialisme nazi, puisqu'il faut l'appeler par son nom, en cette fin d'année 42, effectivement. Mais en même temps, eh bien, c'est un territoire tellement vaste qu'il est intenable.
Et ils n'iront pas plus loin, mais en même temps, Hitler exige de son armée, de sa 6e armée, exige qu'elle reste dans Stalingrad. Est-ce qu'il y avait encore une chance de sortie, Laurent Henninger ?
De sortie, pas véritablement, mais...
Donc ils étaient sacrifiés ?
Pas force, pas nécessairement. C'est-à-dire qu'on a beaucoup brocardé Hitler et sa décision quasi hystérique d'ordonner à Paulus et à la 6e armée de rester sur place. Mais c'est un thème qui est très controversé par les historiens militaires d'aujourd'hui, puisqu'il semblerait que, d'un point de vue strictement tactique, l'ordre d'Hitler n'était pas totalement idiot. Puisque une troupe... quelle qu'en soit la taille, qui décroche d'une position, qui peint en retraite, est une armée qui est en position d'extrême faiblesse. Donc, il vaut mieux, à la limite, rester sur place et attendre que de l'extérieur, une autre armée de secours vienne, en quelque sorte, introduire un pont, en quelque sorte.
C'est d'ailleurs ce qui a été tenté. Je crois que l'armée de von Manstein, qui était partie vers le Caucase, est remontée vers Stalingrad, ensuite.
Elle est remontée, elle a tenté de percer en direction de Stalingrad pour rompre l'encerclement de la 6e armée allemande et lui porter secours, mais cette tentative de contre-offensive de von Manstein s'est heurtée à des contre-contre-offensives de l'armée soviétique et elle a échoué.
Alors, il faut rappeler que Hitler aussi, pendant ce temps-là, pour essayer d'encourager ses troupes à rester, fait parachuter ou envoie par des avions des croix de fer. Je crois que même que Paulus, le général von Paulus, est devenu maréchal pendant la bataille.
Il est devenu d'abord colonel général et ensuite maréchal quelques jours avant la capitulation. Mais c'était une manœuvre politique et symbolique de Hitler, parce qu'il savait que de toute l'histoire de l'armée allemande, depuis le XVIIe ou XVIIIe siècle, aucun maréchal allemand n'avait jamais capitulé. Donc il pensait qu'en nommant, depuis Berlin, par radio, en nommant Paulus maréchal, il allait l'empêcher de capituler. Mais trois jours après, il capitulera quand même.
Effectivement, c'est un maréchal qui capitule le 31 janvier 1943 et qui se rend donc au général Chouïkov, commandant la 64e armée soviétique.
Du quartier général du Führer, 3 février 1943. Le commandement supérieur de la Wehrmacht annonce: la bataille de Stalingrad est terminée. Loyaux à leur serment de fidélité au drapeau, la 6e armée, sous la direction exemplaire du Feldmaréchal Paulus, a succombé à la supériorité de l'ennemi et à la situation défavorable. Le sacrifice de l'armée n'a pas été vain, ils sont morts pour que l'Allemagne vive.
C'était donc la radio allemande annonçant la capitulation de Paulus. Comment est-ce que Hitler a pris la chose de son quartier général à Berlin ?
Très mal, mais comme il prenait à peu près tout mal... là, on est. Ça ne fait que se surajouter à l'une de ces nombreuses crises d'hystérie dont ses proches étaient devenus coutumiers. Mais effectivement, ça n'a fait que le plonger encore plus dans sa folie et dans son enfermement, dans son quasi-autisme, qui le faisait être totalement coupé du réel et prendre des décisions quelquefois absurdes. C'est un homme qui se contentait de diriger la guerre depuis une carte.
Cela dit, il vient de perdre quand même une armée entière de 300 000 hommes, c'est considérable. Les pertes totales à Stalingrad, je crois que c'est 1 million d'hommes à peu près, Laurent Henninger.
C'est le double.
C'est le double ?
C'est le double.
C'est-à-dire pertes blessées, tuées ou uniquement tuées ?
Tuées.
Oui.
Tués. Au total, il faut savoir une chose, c'est que la bataille de Stalingrad est la bataille la plus meurtrière de toute l'histoire de l'humanité. Vraisemblablement 2 millions d'hommes, c'est-à-dire le double de Verdun. 1 100 000 soviétiques et environ 800 000 Allemands et alliés des Allemands. On atteint là 1 900 000 hommes. en sachant que c'est vraiment à 100 000 hommes près, puisque dans ce genre de combat, on ne peut pas faire des comptes précis.
Oui, vous comptez aussi, bien sûr, les armées qui, de l'extérieur, ont tenté de libérer Paulus. Bien sûr, les Russes qui ont eu des pertes considérables. Pour ce qui concerne les Allemands, c'est quand même énorme. Effectivement, toute l'armée de Paulus qui disparaît, la moitié ont survécu, sont partis avec Paulus dans des camps de prisonniers, avec 24 généraux aussi. Ils sont revenus beaucoup plus tard, les soldats allemands capturés à Stalingrad. Ils sont revenus 6 000 à peine, hein, sur 300 000.
Sur 300 000 faits prisonniers, effectivement, ils sont revenus quelque chose.
Je crois qu'il y a eu 100 000 prisonniers, parce qu'il y avait pratiquement plus de survivants.
Voilà, et ensuite, ils sont revenus, les derniers sont revenus en 1955. Ils étaient quelques milliers. Une partie d'entre eux, d'ailleurs, formeront des cadres de la nouvelle République démocratique allemande de l'Allemagne de l'Est communiste.
Mais Paulus lui-même, il faut le rappeler, à partir du RSS, ça s'appelait encore comme ça à l'époque, lançait des appels à la paix pour qu'on renverse Hitler. Il est passé, si je puis dire, il a fait de la propagande pour l'URSS.
Mais c'est-à-dire qu'un grand nombre de prisonniers allemands, depuis 1942 et jusqu'à la fin de la guerre, vont être retournés, en quelque sorte, et utilisés par les services de propagande soviétiques pour... alors déjà, ils créent un comité des Allemands antifascistes qui siège à Moscou, qui est sous le contrôle du Parti communiste, et qui envoie des émissions de radio à l'intention des troupes allemandes et des populations allemandes, appelant au renversement du régime, appelant à la désertion, etc.
Alors pour les Russes aussi, évidemment, le bilan humain est catastrophique. Seulement, bien entendu, eux sont en revanche victorieux. Une victoire annoncée triomphalement quelques jours après la capitulation de Paulus par la radio de Moscou.
Stalingrad.
Stalingrad est libéré. Le drapeau rouge flotte sur la ville. Cette grande bataille qui restera dans les mémoires a pris fin. C'est une très grande victoire que l'armée rouge a remportée sous les ordres du camarade Staline. C'est la victoire du stoïcisme, de la fermeté et de la bravoure du peuple soviétique.
Орал по радио, что в Сталинграде он, как на параде он, и ест он шпик. Что ест он и пьет, а шпик подает под клюкою развесистый мужик.
On vient d'entendre Baron von der Spick, c'est-à-dire une parodie de Bei mir bist du schon, cette chanson allemande bien connue, parodiée par les Russes, qui se moquent évidemment des Allemands, parce que pour eux, c'est un tournant considérable. D'abord, c'est un prestige. Ils ont été battus tout le temps jusqu'en 1942, et là, ils renversent la situation, battent une armée qui, elle, est restée invaincue. C'est vraiment le tournant de la guerre, psychologiquement, politiquement, militairement, on peut dire.
C'est le tournant de la guerre à tout point de vue, effectivement, du point de vue même de l'homme de troupe, de l'homme de base de l'armée soviétique et même du citoyen soviétique de base, comme on dit. C'est un...
Ça a consolidé l'autorité, le prestige de Staline, qui était assez faible au début de la guerre.
Au final, ça consolidera l'autorité de Staline, c'est vrai. Mais surtout, les Russes, depuis un an et demi qui se prennent défaite sur défaite de la part de l'armée allemande, ils en sont devenus complexés vis-à-vis des Allemands et de cette armée allemande. Et là, ça leur redonne confiance en eux-mêmes. Si nous, c'est la preuve que nous, les Russes, nous, les sous-hommes, on est capable de vous battre. La preuve est faite. Donc là, déjà, ça leur redonne confiance, ça les galvanise. Ensuite, effectivement, d'un point de vue stratégique, c'est le tournant, c'est-à-dire que l'armée allemande, qui depuis 1939 est à l'offensive, est victorieuse partout. Là, elle commence à refluer.
Et elle ne va pas cesser de le faire pendant 3 ans.
Elle ne va plus cesser de le faire.
Jusqu'à Berlin.
C'est-à-dire que là, le sens, en quelque sorte, des opérations est totalement inversé. Et ça, c'est un véritable tournant, sans compter le retentissement que cette victoire soviétique a au niveau planétaire.
Au niveau planétaire, parce qu'en plus, c'est effectivement le tournant de la guerre partout. Il faut rappeler que quelques mois avant la chute de Stalingrad, il y a eu le débarquement en Afrique du Nord, qu'il y a eu la bataille de El Alamein, première défaite en Afrique du Nord pour les Allemands, et puis ensuite les défaites vont se succéder. Dans la mémoire d'abord des Russes, Stalingrad, évidemment, c'est important, mais je suis frappé du fait que la guerre se résume, pour beaucoup de jeunes notamment, quand on leur apprend cette histoire-là, essentiellement par le débarquement en Normandie, etc., en oubliant un peu Stalingrad. Jusqu'au film de Jean-Jacques Hano, il n'y a pas eu de grand film consacré à cette bataille, cette guerre d'abord en général sur le front russe, et à cette bataille de Stalingrad, qui était, vous le disiez, la plus grande, la plus importante de l'histoire de l'humanité pourtant.
Alors, Rétablissons la vérité, il y a eu un excellent film sorti il y a 7 ans, mais qui est passé assez inaperçu, qui s'appelait Stalingrad, tout simplement un film allemand, qui racontait la vie d'une section de fantassins allemands dans les ruines de Stalingrad, qui était un excellent film, et qui montrait bien l'état de clochardisation de l'armée allemande à la fin de la bataille. Un film splendide et assez terrifiant. Cela dit, il est vrai que pour des raisons, du fait de 40-50 ans de guerre froide essentiellement, on a considérablement en Occident amoindri le rôle de l'Union soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que pour le peuple soviétique, pour la propagande soviétique pendant 50 ans, le concept même de Seconde Guerre mondiale n'existe pas. Pour eux, il y a la Grande Guerre patriotique, antifasciste, et tous les autres fronts, l'Afrique du Nord, la France, l'Italie, etc., sont secondaires. Alors, par-delà l'exploitation par la propagande stalinienne, par-delà ça, c'est réel.
Merci Laurent Henninger. Je rappelle que vous avez collaboré au Dictionnaire de stratégie dirigé par Thierry de Montbrial et Jean Klein, édité aux Presses universitaires de France. À lire également Sur la bataille de Stalingrad, Vaincre ou mourir à Stalingrad de William Craig, édité chez Pocket, et puis Stalingrad d'Anthony Beaver aux éditions De Fallois. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33. 34 centimes d'euros la minute, ou nous contacter sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. La technique, Michel Bézikian et Christophe Goudin. Documentation, Anne Weinfeld et Virginie Bloch-Lenné. Revue de texte, Stéphanie Duncan. Une réalisation de Anne Comilac.
Une émission de Patrice Gélinet.